VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir, bienvenue à l'édition du lundi 27 avril 2015. À la une ce soir.
Séisme au Népal, scène de destruction et de désolation à Katmandou et dans les zones rurales. Les habitants fuient la capitale alors que le bilan, toujours provisoire, a atteint environ 4000 morts.
Burundi, plusieurs défenseurs des droits humains et dirigeants de la société civile visés par des mandats d'arrêt.
Togo, la présidence et la communauté internationale appellent à la paix suite au scrutin d'hier. Le dépouillement s'étendra sur plusieurs jours.
États-Unis, investiture de Loretta Lynch à la tête du département de la justice. C'est la première femme noire à occuper ce poste. Elle succède à Eric Holder, démissionnaire depuis 6 mois.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Point dominant de l'actualité, le Népal, où un puissant séisme a fait des milliers de morts et causé des dégâts matériels considérables. Des centaines de personnes tentent de fuir Katmandou, la capitale. L'ONU a promis une aide humanitaire massive aux sinistrés. On fait le point avec Jean-Roger Bion.
Alors que le bilan s'alourdit, les rescapés du tremblement de terre se ruent en masse sur les produits alimentaires et les stations-service pour faire des réserves, redoutant des pénuries. Les milliers d'habitants qui ont perdu leur logement et sont contraints de camper craignent maintenant d'avoir à faire face à des maladies. Le Programme alimentaire mondial de l'ONU, le PAM, prépare une opération massive d'aide et espère envoyer au plus vite un premier avion chargé d'aide alimentaire. Les enfants sont particulièrement fragilisés par le sinistre et près d'1 million d'entre eux ont un besoin urgent d'aide humanitaire selon l'UNICEF. Les secouristes népalais reçoivent le renfort de centaines d'humanitaires arrivés de pays comme la Chine, l'Inde et les États-Unis et de nombreux États et organisations ont promis leur aide. Les hôpitaux sont débordés et les médecins sont mobilisés 24 heures sur 24 pour soigner les blessés dans des conditions très difficiles. Les morgues arrivent quant à elles à saturation. Le tremblement de terre est le plus meurtrier qu'a connu le Népal depuis 80 ans.
Au Burundi, la police anti-émeute a dispersé de nouvelles manifestations contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, Idriss Fall.
La police, appuyée par les Imbonerakure, une milice proche du parti au pouvoir, ont dispersé de manière musclée les milliers de personnes qui avaient osé braver l'interdiction de manifester. Hier, au moins 2 manifestants ont été tués par balle à Bujumbura. Ce lundi, Pierre Clavé Mbonimpa, défenseur des droits de l'homme, a été arrêté et un mandat d'arrêt a été lancé contre Vital Chimirimana, président du Forum de la société civile. Ils avaient appelé à des manifestations pacifiques. Les autorités burundaises ont fermé la radio publique africaine, principale radio indépendante du pays. Depuis hier, 3 grandes radios privées ont été interdites d'émettre en dehors de la capitale. Et elles sont accusées d'inciter les populations au soulèvement. Craignant le pire, au moins 17 000 Burundais ont fui vers le Rwanda et la République démocratique du Congo. Réagissant à la candidature de Pierre Nkurunziza, les États-Unis disent regretter le non-respect de l'accord d'Arusha qui limite à 2 les mandats présidentiels et dénonce une occasion ratée pour la démocratie au Burundi.
D'autres personnalités de la société civile burundaise sont également visées par les autorités. Gabriel Rofiri, le président de l'OLUCOM, une association de lutte contre la corruption, a dit à VOA Afrique qu'il fait l'objet de mandats d'arrêt et craint pour sa sécurité. Nous avons déjà parlé du président du Forum de renforcement de la société civile, Vital Chimirimana, et Pacifique, Niniha Azoué, président du FOCOD, qui sont dans la même situation. Ces figures de l'opposition se sont prononcées contre la candidature du président burundais Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat.
Au Togo, le président sortant Fornia Singbe est en tête des premiers résultats partiels de l'élection présidentielle de samedi. Des précisions avec Eddy Issango.
Il est encore trop tôt pour parler des tendances déterminantes de ces élections. La Commission nationale électorale togolaise n'a publié lundi que 12% des résultats. Toutefois, Fornia Singbe mène largement avec plus de 133 000 voix, soit 62% des suffrages dépouillés. Son principal adversaire, Jean-Pierre Fabre, vient en deuxième position avec plus de 68 000 voix, soit 32%. Les autres candidats de l'opposition nagent encore autour de 1% pour ces élections boycottées par une partie de l'opposition. L'opposition avait en effet, avant ces élections, organisé plusieurs manifestations exigeant la révision de la Constitution pour empêcher un troisième mandat de Nyansigwe qui prolonge à la tête du pays un régime dirigé par sa famille depuis 48 ans. La situation reste pour le moment calme, mais tendue au Togo. Le président Nyansingwe avait initialement été porté au pouvoir par l'armée en 2005 à la mort de son père, le général Nyansingwe Yadema, qui avait gouverné le Togo d'une main de fer pendant 38 ans. Mais il a organisé en 2010 des élections qu'il a remportées malgré les contestations de l'opposition qui ont fait des centaines de morts.
Et au Bénin, c'est le calme au lendemain des législatives. Le dépouillement a commencé. La commission électorale a 8 jours pour donner les premières tendances.
Dans le nord du Mali, le groupe d'autodéfense Touareg des Imgad et ses alliés ont délogé le MNLA et occupent la ville de Menaka. Cela intervient au moment où la communauté internationale et le gouvernement malien tentent une sortie de crise négociée avec la coordination des mouvements de la Zawad, dont le MNLA. Un reportage de Boubacar Touré.
Située à 317 km de Gao, en allant vers le sud-est, la ville de Menaka est tombée dans les mains du groupe d'autodéfense des Imrad, l'ethnie Touareg du général Gamou, donc proche des autorités de Bamako. Les combats qui étaient violents et qui ont duré plus d'une heure et demie ont contraint les habitants de la ville à chercher des abris. Selon un habitant contacté sur place, la ville est désormais sous le contrôle des combattants de Gatia et alliés qui ont été acclamés par une population en liesse avec des drapeaux du Mali et qui scandaient « Vive le Mali, vive le Gatia ». Pour l'instant, nous ne disposons d'aucun bilan, mais tout laisse croire que les affrontements étaient violents. Le calme semble être revenu. Il faut le rappeler, la ville de Menaka était jusque ce matin encore sous le contrôle du mouvement national de libération de la Zawad depuis les événements du 17 mai 2014 où l'armée malienne a été chassée de certaines villes du nord après la rentrée en force à Kidal de Moussa Mara, premier ministre d'alors. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Organisation des Nations Unies, obligée de réduire son aide à la Centrafrique à cause du manque de fonds pour ses opérations humanitaires. OCHA n'a reçu que 14% des fonds nécessaires et le HCR seulement 9% pour les 4 pays voisins de la crise.
Le président Omar al-Béchir a été réélu pour un autre mandat de 5 ans à la tête du Soudan avec plus de 94% des suffrages. L'opposition a boycotté le scrutin, estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour une élection libre et transparente. Lionel Gaïma.
La commission électorale a annoncé aujourd'hui cette victoire largement attendue après les élections présidentielles, parlementaires et régionales qui se sont déroulées du 13 avril au 16 avril. M. Bachir est au pouvoir depuis 1989 et il est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. L'homme fort de Khartoum n'avait en face de lui que 13 challengers plutôt inconnus et la participation n'a été que de 46%, selon la commission électorale soudanaise. L'Union européenne, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Norvège avaient tous critiqué cette élection, déplorant l'absence du dialogue national promis, une situation qui prive le Soudan d'un processus politique inclusif.
Toujours dans le reste de l'actualité, négociations sur le nucléaire iranien, le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue Mohammad Javad Zarif de l'Iran se rencontrent ce lundi à New York pour la première fois depuis l'annonce d'un accord préliminaire entre Téhéran et les puissances mondiales.
Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, une Africaine-Américaine va diriger l'appareil judiciaire fédéral. Loretta Lynch a été installée ce matin comme ministre de la Justice en remplacement d'Eric Holder. Le vice-président Joe Biden, qui présidait la cérémonie, a dit que cette investiture n'est pas venue trop tôt. Une référence au long processus de confirmation au Sénat. En effet, après la démission de Holder, la majorité républicaine avait bloqué la confirmation de Loretta Lynch en raison de certains désaccords avec le président Obama.
Toujours aux États-Unis, la tension reste vive à Baltimore, dans l'est du pays, non loin de la capitale fédérale, où ont eu lieu ce matin les funérailles de Freddie Gray, le jeune noir de 25 ans qui a trouvé la mort 2 semaines plus tôt alors qu'il était dans un fourgon de la police. Une manifestation était prévue cet après-midi devant l'hôtel de ville. La police a arrêté plusieurs dizaines de personnes ce week-end lors de manifestations contre la mort de Freddie Gray et les brutalités policières en général.
Et le Sénégal célébrait ce lundi la journée de commémoration des résistances pour l'abolition de la traite des Noirs et de l'esclavage. Autour du thème « Bâtir une mémoire apaisée », plusieurs sujets de réflexion ont été abordés, dont notamment le rôle de Gorée dans le mouvement abolitionniste, rapporte l'agence de presse sénégalaise. Étaient présents l'ambassadeur de Chine, le conseiller culturel de l'ambassade de France, des représentants des États-Unis, de Belgique et du Mali, entre autres personnalités, rapporte l'AFP. Le Sénégal a voté le 27 avril 2019. 2010 une loi déclarant l'esclavage crime contre l'humanité. Le 27 avril 1848 est la date de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. À la mairie de Dakar, une plaque en marbre a été dévoilée sur laquelle on peut lire « L'abolition est le fruit des luttes des esclaves et des abolitionnistes français ». Voilà pour le journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco, ce soir avec Félix Yepassis Zembro.
La ville de Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso, abrite à partir de ce lundi la 14e édition de la rencontre gouvernement-secteur privé. Le thème de la rencontre est la problématique du financement des PME-PMI au Burkina Faso, état des lieux, défis et perspectives. Le service d'information du gouvernement précise que la réunion servira de tribune aux opérateurs économiques pour porter leurs préoccupations à l'attention de l'exécutif. Au Mali, une nouvelle mine d'or dont les réserves sont estimées à 240 000 onces, soit environ 7,7 tonnes, a été inaugurée samedi par le ministre des Mines, Bouba Cissé. Selon un communiqué du gouvernement, la mine d'or de Kofi, dont la production annuelle attendue est de 56 500 onces, soit environ 1,8 tonnes d'or par an, devrait rapporter au Mali près de 23 millions de dollars sur une période d'exploitation de 4 ou 5 ans. La Réserve fédérale américaine va prendre le pouls de l'économie américaine lors d'une réunion de son comité monétaire mardi et mercredi pour évaluer quand une première hausse des taux d'intérêt sera possible en 2015. Lors de sa dernière réunion en mars, le comité politique monétaire s'était montré divisé, plusieurs membres plaidant pour une hausse des taux dès juin, les autres pour plus tard. Mais depuis, les baromètres de l'activité au premier trimestre n'ont pas été au plus beau, même si la croissance se poursuit. La Banque centrale devrait donc maintenir ses taux directeurs proches de zéro, comme ils le sont depuis fin 2008.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Félix Yepassis Zembro.
Et à présent, les sports avec Timothée Donangmaï en direct ici dans le studio 13 de La Voix de l'Amérique. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Nathalie.
Alors, l'actualité sportive en Afrique a été dominée par le coup d'envoi du championnat d'Afrique des moins de 23 ans.
Avec cette bonne entrée en compétition du Botswana, victorieux par 3-0 du Kenya, un match aller du premier tour, le Rwanda s'est imposé 2-0 face à la Somalie et le Ghana a battu le Libéria 2-0. Les matchs retour se joueront les 8, 9 et 10 mai. Pour leur part, la Mauritanie et la Sierra Leone sont qualifiés pour le tour suivant à la faveur des retraits de la Libye et de la Guinée-Bissau respectivement.
Et Timothée, un mot d'athlétisme avec le triomphe du Kenya et de l'Éthiopie au marathon de Londres hier.
Et oui Nathalie, ces deux pays ont porté haut les couleurs africaines à ce marathon. Le Kenya Eliud Kipchoge s'est imposé chez les hommes avec un chrono de 2 heures, 4 minutes et 42 secondes devant ses compatriotes Wilson Kipsan, le vainqueur de l'édition précédente, et Denis Kimeto qui détient le record du monde de la distance. L'Afrique s'est également illustrée chez les dames avec la victoire de l'Éthiopienne Tigis Toufa en 2h23 minutes et 23 secondes devant la Kenyane Mary Keitani et une autre Éthiopienne Tirfi Tsegaye.
Et suite des playoffs en NBA, la Ligue professionnelle nord-américaine de basketball.
Cleveland s'est qualifié hier pour les demi-finales de la conférence Est en éliminant Boston. 4-0. Les Cavaliers ont signé leur 4e victoire sur le parquet des Celtics, 101-93. Les Clippers, qui restaient sur une lourde défaite à San Antonio vendredi, ont réagi avec brio dans la salle des Spurs dimanche en égalisant à 2 victoires partout. Et les Clippers se sont imposés 114-105 lors de ce match. Qualification également pour les Wizards de Washington, 4-0 face à Toronto. Toronto battu hier soir par 125-94 ici même à Washington pour le tout premier 4-0 de l'histoire du club de la capitale fédérale américaine, le tout premier sweep. Et enfin, Houston devra patienter face à Dallas.
Merci. Et Timothée Donnerman et Nathalie, il faut signaler que Timothée sera en notre compagnie dans Sporama.
Absolument.
À 19h.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Chérubin Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour à présent.
Trois jours après une attaque de Boko Haram contre une position de l'armée nigérienne sur une île à la frontière du Nigeria, aucun bilan officiel n'est encore disponible. Ce qui donne lieu à de folles rumeurs, d'autant que la situation inquiète plus d'un citoyen nigérien. Notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa, a recueilli des réactions dans la capitale nigérienne.
En tant que citoyen, nous sommes inquiets de la mesure où nous constatons avec amertume le silence coupable et criminel de la part du gouvernement nigérien, dans la mesure où, trois jours après cette attaque, et il n'y a que la rue qui s'exprime pour donner parfois des chiffres très exorbitants, mais qu'on n'arrive pas à vérifier sur le terrain. Quelque part, c'est parce que le gouvernement estime être responsable de cette tragédie. C'est pour cela, moi, à mon sens, le gouvernement continue à observer un silence criminel. Tant que citoyen, nous sommes en train de poser un certain nombre de questions. Mais où se trouvent les drones annoncés par le gouvernement? Où se trouvent les bases militaires installées injustement et sans l'aval des citoyens et de l'Assemblée nationale de notre pays? Ou bien ces bases militaires sont là uniquement pour protéger le président et son gouvernement? Ou bien la vie du président de la République et son gouvernement est plus que la vie des 17 millions d'âmes de Nigériens? Nous exigeons au président de la République et son gouvernement de sortir communiquer et nous dire les vrais bilans de cette attaque contre nos FDS.
En tout cas, c'est inquiétant. Du moment, c'est des frères. Avant tout, c'est des frères, c'est des sœurs qui sont décidés de prendre la tenue pour défendre les couleurs de la nation. Et voir que les autorités essaient de masquer, de passer une mascarade sur ces drames, moi, je trouve ça très déplorable. Ils devraient plutôt se prendre leurs responsabilités parce que déjà, ils ont failli en n'équipant pas bien nos soldats d'armement de dernière technologie. Et voilà, on est en train de ramasser les pots cassés. Et je dirais que ces gouvernants doivent se réveiller plus tôt que d'aller cacher ce qui est déjà fait.
Mais est-ce que vous avez des échos de combien de morts il y a eu?
Bon, jusque-là, mais ce qu'on a pu entendre dans les échos, paraît-il que c'est plus d'une centaine de morts.
Propos recueillis à Niamey par notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez, et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Au Burundi, la police a encore dispersé une manifestation d'opposants à la candidature du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat. Hier, deux personnes ont été tuées par balle. Pour faire le point, Idriss Fall a joint à Bujumbura maître François Nyamoya, secrétaire général du MSD, le Mouvement pour la solidarité et la démocratie, un parti d'opposition au Burundi.
La mobilisation, c'était encore forte comme hier, mais il n'y a pas eu de victimes comme hier, il n'y a pas eu de morts, mais il y a eu quelques blessés. L'armée était venue à la rescousse. L'armée avait un meilleur comportement que la police.
Et les milices dont on parle là, ça c'est quoi cette milice?
Les Imbonerakure, oui. Ils se sont mobilisés de plus belle aujourd'hui parce que même des nouvelles qu'on a, qui reste quand même à vérifier, c'est que les Imbonerakure étaient en train d'être dispatchés dans les quartiers par des camionnettes qui apparemment sont des camionnettes de la police mais qui n'ont pas de plaque d'immatriculation. Alors c'est très inquiétant. Il y a quelques minutes, il y a une radio locale, la radio Bonesha, qui fait état d'une information selon laquelle il y aurait même des éléments rwandais des FDLR. Mais selon cette radio, la police aurait démenti cette information. Ça donne une idée de l'atmosphère.
Et la radio publique africaine est fermée?
La radio publique est fermée et c'est extrêmement grave. Les autres radios privées ne peuvent plus émettre à l'intérieur du pays. Ça ajoute à la psychose parce que maintenant, sans ces médias, les rumeurs peuvent avoir libre cours et ça devient extrêmement dangereux. Donc vraiment, là, on fait appel à la communauté internationale de faire pression sur le gouvernement pour qu'il laisse les médias travailler. Il en va même de la sécurité du pays.
On nous dit que Pierre Claver Bonimpa est arrêté. Il y a la traque aussi des leaders de la société civile.
Oui, il a été arrêté. Des agents de la documentation qui l'ont pris. Mais on n'a pas de nouvelles jusqu'à présent. Est-ce toutes ces mesures, ces arrestations, des mandats en cours contre des personnalités des partis politiques ou même de la société civile, au lieu de calmer le jeu, ça aggrave la situation. On est vraiment en plein processus de déflagration.
Et où sont les leaders politiques du genre Agathon Rwasa, Alexis Nduyige? Est-ce qu'ils sont dans le pays ou bien?
Oui, Alexis Nduyige, lui, il était à l'extérieur depuis mars. Hein. Mais les autres, ils sont ici, mais ils ne sont pas libres de leur mouvement. Ils sont cachés, quoi.
Est-ce qu'il n'y a pas de risque que le pays bascule dans des nouvelles rébellions?
Rébellion classique, non, pas dans l'immédiat en tout cas. Aujourd'hui, c'est le risque, c'est le risque d'une violence généralisée entre les tenants du pouvoir et une partie de la police des Imbonerakure contre le reste de la population. C'est le grand danger. Mais la guérilla, ce n'est pas dans l'immédiat. C'est pas impossible, mais ce n'est pas dans l'immédiat.
C'était Maître François Nyamoya, secrétaire général du MSD, le Mouvement pour la solidarité et la démocratie au Burundi.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Les ressortissants des pays membres de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, ont appelé dimanche à Brazzaville leur gouvernement à harmoniser les législations en matière de ressources naturelles pour permettre au plus grand nombre d'en bénéficier. Ces experts et membres de la société civile ont dénoncé l'état de pauvreté dans lequel vivent les populations riveraines des zones d'exploitation. Nguela Ngoussou, notre correspondant à Brazzaville, nous en parle.
L'abondance des ressources naturelles en Afrique centrale ne profite pas toujours aux populations, ont constaté des chercheurs et des membres de la société civile en réunion à Brazzaville. Fridolin Ngoulou, journaliste centrafricain, estime qu'il faut plus de bénéfices du diamant dans le développement de la RCIA.
C'est la crise qui a tout chamboulé. Présentement, un artisan minier est devenu un malheureux puisqu'il produit, il a de l'or ou du diamant, mais il n'y a pas des acheteurs, puisque les collecteurs aussi des diamants ont des difficultés et l'embargo pèse sur le diamant centrafricain.
Un membre de la société civile de la Guinée équatoriale craint même la perte des avantages sociaux des populations à la suite de la baisse des prix du pétrole.
On parle beaucoup de la crise économique, de réduction salariale pour les fonctionnaires d'État. Ça, c'est ça qu'on vit maintenant. Un membre du gouverneur dans Information, il disait qu'il y a bon niveau de vie, mais la réalité, c'est que plusieurs personnes en Guinée équatoriale vivent dans la pauvreté. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'eau pour tout le monde, il n'y a pas d'électricien. Par exemple, à Bata, pour faire un contrat de lumière, on doit payer 1 million plus de francs CFA. Mais si tu es un fonctionnaire, à fin de mois, votre salaire, c'est par exemple 120 000. C'est dur pour nous.
Alors que le Congo-Brazzaville met en place son industrie minière, Hilaire Elenga, le directeur général du Centre de recherche géologique et minière, indique que les dispositions sont prises pour que le fer, la potasse, le phosphore et les polymétaux profitent pleinement aux Congolais. Le docteur Gilbert Maoundonoji du Tchad, lui, plaide pour l'harmonisation de la législation des industries extractives dans la zone CEMAC.
C'est pour éviter simplement que les multinationales profitent du différentiel de réglementation pour pouvoir appliquer ce qu'on appelle le double standard, c'est-à-dire ce qu'elles-mêmes ne font pas dans leur pays ou ne font pas dans un pays, elles peuvent aller le faire dans un autre s'il n'y a pas une harmonisation de la législation.
Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
À la demande de la revue médicale The Lancet, une commission d'experts a évalué l'accès aux interventions chirurgicales à l'échelle mondiale. La conclusion témoigne de l'ampleur des besoins dans les pays à faible ou moyen revenu. Des précisions avec Camille Gros-Didier.
Sur les quelques 313 millions d'interventions effectuées dans le monde chaque année, seule une sur 20 est réalisée dans les pays les plus pauvres. Ce qui signifie, selon l'étude publiée par The Lancet, que les personnes n'ayant pas accès à la chirurgie et à l'anesthésie de base, nécessaires pour les interventions les plus courantes, comme celles liées à l'appendicite, aux fractures ou aux accouchements, meurent inutilement. Les besoins sont énormes, souligne le professeur Thomas Weiser de l'université Stanford, membre de la commission rassemblée par The Lancet.
Environ 143 millions d'interventions sont probablement nécessaires chaque année pour suffire aux besoins élémentaires des pays à bas ou moyen revenu. Il est probable qu'environ 5 milliards d'êtres humains n'ont pas accès à des interventions sûres de façon ponctuelle.
Certes, ajoute l'étude publiée par The Lancet, des progrès remarquables ont été réalisés au plan de la santé mondiale ces 25 dernières années, mais pas du côté des chirurgies.
On ne saurait établir de soins de santé universels sans incorporer la chirurgie.
Renforcer la disponibilité des interventions chirurgicales est nettement moins facile que de distribuer des moustiquaires imprégnés d'insecticides, souligne le docteur Maïra. Il faut former les équipes de chirurgiens, disposer des infrastructures nécessaires, d'instruments stérilisés, mais également d'électricité fiable et des moyens de rapprocher les malades des hôpitaux. Tout cela sans ruiner personne, car les difficultés financières en raison des dépenses entraînées par la chirurgie font sombrer chaque année des millions de personnes dans la pauvreté. Pour établir un accès acceptable aux interventions chirurgicales, le rapport publié par The Lancet chiffre de 300 à 420 milliards de dollars les investissements nécessaires pour y parvenir d'ici à 2030. À noter que chaque dollar investi rapporterait entre 3 à 4 dollars, ajoute le docteur Maïra, du fait des vies sauvées et de la productivité accrue des malades une fois guéris. Certains pays n'ont pas attendu l'étude du Lancet pour améliorer l'accès aux chirurgies, parmi eux le Mexique ou encore le Rwanda.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Vous écoutez VOA Afrique, un rappel des grands titres.
Séisme au Népal, scène de destruction et de désolation à Katmandou et dans les zones rurales. Les habitants fuient la capitale alors que le bilan, toujours provisoire, a atteint environ 4000 morts.
Burundi, plusieurs défenseurs des droits humains et dirigeants de la société civile visés par des mandats d'arrêt.
Togo, la présidence ainsi que la communauté internationale appellent à la paix suite au scrutin présidentiel d'hier. Le dépouillement s'étendra sur plusieurs jours.
Et aux États-Unis, investiture de Loretta Lynch à la tête du département de la justice. C'est la première femme noire à occuper ce poste. Elle succède à Eric Holder, démissionnaire depuis 6 mois.
La mise en onde a été assurée ce soir par Lionel Gaïma, assisté de notre ami Justin Thwaite à la console technique. À la présentation, Nathalie Barge et Chérubin Dorsil.
Et oui, ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Dans un instant, un résumé de l'actualité africaine et internationale. Très bonne soirée.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.